Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers fidèles, aujourd'hui nous solennisons la grande fête de l'Immaculée Conception qui, pour l'Église, comme pour notre institut qui lui est consacré, est une grande joie. Mais du ciel, la bienheureuse Vierge Marie a bien dû batailler pour entendre un jour, en la bouche du bienheureux Pie IX, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Cette vérité de foi qui définit que la très sainte Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par privilège et par une grâce singulière du Dieu Tout-Puissant, au regard des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé, intact de toute tâche de la faute originelle. C'est la première fois qu'un dogme est proclamé sur la personne même de la Vierge Marie. Certes, nous pouvons noter qu'en 431, au Concile d'Éphèse, la Vierge Marie reçut le titre de Théotokos, qui veut dire « Mère de Dieu », pour souligner qu'elle est la mère du Fils qui possède une double nature, la nature humaine et la nature divine, que nous appelons l'union hypostatique dans la personne du Christ. Par ce truchement, déjà, une porte s'ouvre vers la dévotion mariale, qui va connaître d'abord en Orient, puis en Occident, un tournant par la fête de la conception de la Vierge Marie, fêtée le 8 décembre, dès le 7e siècle en Orient, et à partir du 12e siècle en Occident, via l'Italie et l'Angleterre. Un peu d'histoire qui nous montre qu'il a fallu batailler avec des arguments, car en leur temps, ni saint Bernard, ni saint Bonaventure, ni saint Thomas d'Aquin n'y étaient favorables. Je voudrais vous citer deux arguments en faveur du dogme, celle tirée de la doctrine de saint Paul sur l'universalité de la contagion originelle par Edmer, moine de Canterbury, 1060-1124. Qui se la pose nettement et la réfute longuement et magistralement, je ne vous donnerai qu'un extrait. L'apôtre affirme que tous les hommes ont péché dans Adam. Vérité certaine, et je le déclare, il ne m'est pas permis de la nier. Mais en considérant l'éminence de la grâce divine en vous, ô Marie, je remarque que vous êtes placée d'une façon inestimable, non parmi les créatures, mais à l'exception de votre Fils, au-dessus de tout ce qui a été fait. D'où je conclus que dans votre conception, vous n'avez pas été enchaîné par la même loi connaturelle aux autres hommes, mais que vous êtes resté complètement affranchi de l'atteinte de tout péché, et cela par une vertu singulière et une opération divine impénétrable à l'intelligence humaine. Et celle tirée de la réplique empruntée à la thèse augustinienne sur la propagation du péché originel par la génération humaine. Edmer répond : on prétend qu'elle n'a pas été entièrement exempte du péché d'Adam, par le fait certain qu'elle est née de l'union légitime d'un homme et d'une femme. Si cette opinion est catholique, je ne veux en aucune façon contredire la vérité de l'Église catholique et universelle. Cependant, si je considère autant que le permet la faiblesse visuelle de mon esprit, la magnificence des œuvres de la puissance divine, il me semble voir que si le péché originel a eu quelque part dans la génération de la mère de mon Dieu et de mon Sauveur, il a atteint les auteurs de cette génération et non celle qui fut engendrée. Et il explique sa pensée par la gracieuse comparaison de la châtaigne qui a le privilège de naître et de se développer dans une écorce hérissée d'épines sans être atteinte par celle-ci. Moi, j'aurais plutôt choisi l'exemple de l'oursin. C'est encore plus parlant parce que c'est plus piquant. Et quand vous l'ouvrez et que vous mangez l'intérieur, eh bien, c'est un délice. L'étude d'Elmer sur la Vierge Marie est vraiment passionnante, mes amis. Et sur bien des points, il devance ce que deviendra la scolastique, qui sera divisée sur ce point, puisque saint Thomas d'Aquin réfutera le fait que la Mère de Dieu est née sans péché, et qu'Andrew Scott, surnommé docteur subtil, sera un défenseur de ce qui deviendra le dogme de l'Immaculée Conception. L'un est dominicain, l'autre est franciscain. Et donc on peut comprendre que ça va être mouvementé. Dun Scott était un Écossais, 1266-1308. Il a certainement étudié l'œuvre d'Elmer, et sur ce point, il a bien raison. C'est intéressant de voir dans ces personnalités qui auront dans la pensée théologique de grandes influences, leurs pensées, leurs arguments, qui ne rendent pas aisée la définition du dogme. Il faudra la sagesse d'un Sixte IV par des bulles en 1476 et 1482, où est approuvée la fête de la conception avec un office et une indulgence et une interdiction des disputes et des anathèmes réciproques. Puis d'un Grégoire XV qui, par la constitution Sanctissimus Dominus, interdit tout débat sur le sujet, à l'exception des dominicains entre eux. Le temps avance et nous voici avec le courant jésuite du XVIIe siècle, avec la belle figure de Toussaint Bridoul, qui dans son ouvrage « Triomphe annuel de Notre-Dame » évoque le vœu fait à Naples en 1618 par le vice-roi, la cour et le corps de l'université, confessant au sujet de la Vierge Marie que votre conception a toujours été immaculée. La cause avance. Le 8 décembre 1708, le pape Clément XI en fait une fête d'obligation par la bulle Comici Nobis. Une bulle pontificale, c'est une lettre qui a valeur juridique et donc qui engage. La cause avance, mais le siècle des Lumières, que nous devrions appeler le siècle des Ténèbres, nuit à la piété mariale, et il faudra attendre que la Sainte Vierge intervienne dans son apparition à Sainte-Catherine Labourée, le 27 novembre 1830, qui est, si vous vous souvenez bien, la deuxième apparition, puisque la première, c'est le 18 juillet, à la rue du Bac, à Paris, pour que la dévotion mariale renaisse. En effet, le fruit de cette apparition fut dès 1832 la diffusion à plusieurs millions d'exemplaires de la médaille miraculeuse avec l'inscription, qui ne vous a pas échappé, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »« Ô Marie conçue sans péché, » 1832. Ainsi, la Sainte Vierge, en quelque sorte, siffle la fin de la récréation et la conséquence va être que tout se précipite. Les évêques, au moins une cinquantaine, demandent au pape Grégoire XVI la proclamation du dogme. Il fait la sourde oreille. Et Pie IX, le bienheureux, dès 1849, par l'encyclique Ubi Primum, demande aux évêques du monde entier leur avis sur l'Immaculée Conception. Les réponses étant favorables, à l'unanimité, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Vous voyez qu'entre le 7e siècle et le 19e siècle, où par les Orientaux, à partir du 7e siècle, par les Orientaux, on commence à parler d'une fête de la Conception et le 19e, il y a 1200 ans qui se sont passés. 1200 ans de controverses, avec évidemment des bons développements, des belles choses. La Vierge Marie, elle, apparaît en 1830 à Sainte-Catherine-Labourée, et 24 ans après, le dogme est proclamé. Aujourd'hui, nous sommes, n'ayons pas peur de le dire, dans un combat qui fait rage, car c'est celui de la foi qui est persécuté, et tout semble indiquer que nous sommes dans une déroute. Mais La Vierge Marie, si nous l'invoquons, permettra de faire triompher l'espérance, et ce, prestement. Et pour conclure, je citerai Marc Robin qui disait « Je ne connais pas l'avenir, mais ce que je sais, c'est que l'avenir, c'est Jésus. » Je rajouterai simplement que Marie nous conduit à Jésus. Prions Marie pour que Jésus puisse régner dans les cœurs. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.